Prendre l'idéologie au sérieux. L'inégalité n'est pas économique ou technologique. Elle est idéologique et politique. Telle est sans doute la conclusion la plus évidente de l'enquête historique présentée dans ce livre. Autrement dit, le marché et la concurrence, le profit et le salaire, le capital et la dette, les travailleurs qualifiés et non qualifiés, les nationaux et les étrangers, les paradis fiscaux et la compétitivité n'existent pas en tant que tels. Ce sont des constructions sociales et historiques qui dépendent entièrement du système légal, fiscal, éducatif et politique que l'on choisit de mettre en place et des catégories que l'on se donne. Ces choix renvoient avant tout aux représentations que chaque société se fait de la justice sociale et de l'économie juste et des rapports de force politico-idéologiques entre les différents groupes et discours en présence. Le point important est que ces rapports de force ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi et surtout intellectuels et idéologiques. Autrement dit, les idées et les idéologies comptent dans l'histoire. Elles permettent en permanence d'imaginer et de structurer des mondes nouveaux et des sociétés différentes. De multiples trajectoires sont toujours possibles. Cette approche se distingue des nombreux discours conservateurs visant à expliquer qu'il existe des fondements naturels aux inégalités. De façon peu surprenante, les élites des différentes sociétés, à toutes les époques et sous toutes les latitudes, ont souvent tendance à naturaliser les inégalités, c'est-à-dire à tenter de leur donner des fondements naturels et objectifs, à expliquer que les disparités sociales en place sont, comme il se doit, dans l'intérêt des plus pauvres et de la société dans son ensemble, et qu'en tout état de cause, leur structure présente est la seule envisageable et ne saurait être substantiellement modifiée sans causer d'immenses malheurs. L'expérience historique démontre le contraire. Les inégalités varient fortement dans le temps et dans l'espace, dans leur ampleur comme dans leur structure, et dans des conditions et avec une rapidité que les contemporains auraient souvent peiné à anticiper quelques décennies plus tôt. Il en a parfois résulté des malheurs. Mais dans leur ensemble, les diverses ruptures et processus révolutionnaires et politiques qui ont permis de réduire et de transformer les inégalités du passé ont été un immense succès et sont à l'origine de nos institutions les plus précieuses, celles précisément qui ont permis que l'idée de progrès humain devienne une réalité. Le suffrage universel, l'école gratuite et obligatoire, l'assurance maladie universelle, l'impôt progressif. Il est très probable qu'il en aille de même à l'avenir. Les inégalités actuelles et les institutions présentes ne sont pas les seules possibles, quoi que puissent en penser les conservateurs, et elles seront appelées elles aussi à se transformer et se réinventer en permanence. Mais cette approche centrée sur les idéologies, les institutions et la diversité des trajectoires possibles se différencie également de certaines doctrines parfois qualifiées de marxistes, selon lesquelles l'état des forces économiques et des rapports de production déterminerait presque mécaniquement la superstructure idéologique d'une société. J'insiste au contraire sur le fait qu'il existe une véritable autonomie de la sphère des idées, c'est-à-dire de la sphère idéologico-politique. Pour un même état de développement de l'économie et des forces productives, dans la mesure où ces mots ont un sens, ce qui n'est pas certain, il existe toujours une multiplicité de régimes idéologiques, politiques et inégalitaires possibles. Par exemple, la théorie du passage mécanique du féodalisme au capitalisme à la suite de la révolution industrielle ne permet pas de rendre compte de la complexité et de la diversité des trajectoires historiques et politico-idéologiques observées dans les différents pays et régions du monde, en particulier entre régions colonisatrices et colonisées, comme d'ailleurs au sein de chaque ensemble, et surtout ne permet pas de tirer les leçons les plus utiles pour les étapes suivantes. En reprenant le fil de cette histoire, on constate qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours des alternatives. À tous les niveaux de développement, il existe de multiples façons de structurer un système économique, social et politique, de définir les relations de propriété, d'organiser un régime fiscal ou éducatif, de traiter un problème de dette publique ou privée, de réguler les relations entre les différentes communautés humaines, et ainsi de suite. Il existe toujours plusieurs voies possibles, permettant d'organiser une société et les rapports de pouvoir et de propriété en son sein, et ces différences ne portent pas que sur des détails, tant s'en faut. En particulier, il existe plusieurs façons d'organiser les rapports de propriété au XXIe siècle, et certaines peuvent constituer un dépassement du capitalisme bien plus réel que la voie consistant à promettre sa destruction sans se soucier de ce qui suivra. L'étude des différentes trajectoires historiques et des multiples bifurcations inachevées du passé est le meilleur antidote tout à la fois au conservatisme élitiste et à l'attentisme révolutionnaire du grand soir. Un tel attentisme dispense souvent de réfléchir au régime institutionnel et politique réellement émancipateur à appliquer au lendemain du grand soir, et conduit généralement à s'en remettre à un pouvoir étatique tout à la fois hypertrophié et indéfini, ce qui peut s'avérer tout aussi dangereux que la sacralisation propriétariste à laquelle on prétend s'opposer. Cette attitude a causé au XXe siècle des dégâts humains et politiques considérables, dont nous n'avons pas fini de payer le prix. Le fait que le post-communisme, dans sa variante russe comme dans sa version chinoise, ainsi dans une certaine mesure que dans sa variante est-européenne, en dépit de tout ce qui différencie ces trois trajectoires, est devenu en ce début de XXIe siècle le meilleur allié de l'hypercapitalisme et la conséquence directe des désastres communistes, staliniens et maoïstes, et de l'abandon de toute ambition égalitaire et internationaliste qui en a découlé. Le désastre communiste a même réussi à faire passer au second plan les dégâts causés par les idéologies esclavagistes, colonialistes et racialistes, ainsi que les liens profonds qui les rattache à l'idéologie propriétariste et hypercapitaliste, ce qui n'est pas un mince exploit. Dans la mesure du possible, je vais tenter dans ce livre de prendre les idéologies au sérieux. Je voudrais en particulier donner une chance à chaque idéologie du passé, en particulier aux idéologies propriétaristes, social-démocrates et communistes, mais aussi aux idéologies trifonctionnelles, esclavagistes ou colonialistes, en les restituant dans leur cohérence propre. Je pars du principe que chaque idéologie, aussi extrême et excessive puisse-t-elle sembler dans sa défense d'un certain type d'inégalité ou d'égalité, exprime à sa façon une certaine vision de la société juste et de la justice sociale. Cette vision a toujours un fond de plausibilité, de sincérité et de cohérence dont il est possible d'extraire des leçons utiles pour la suite, à la condition toutefois d'étudier ses développements politico-idéologiques non pas de façon abstraite, anhistorique et ainstitutionnelle, mais bien au contraire, tels qu'ils se sont incarnés dans des sociétés singulières, des périodes historiques et des institutions spécifiques, caractérisées notamment par des formes particulières de propriété et de régime fiscal et éducatif. Ces formes doivent être pensées rigoureusement, sans craindre d'étudier précisément leurs règles et leurs conditions de fonctionnement, systèmes légaux, barèmes fiscaux, ressources éducatives, etc., sans lesquelles les institutions comme les idéologies ne sont que des coquilles vides, inaptes à transformer réellement la société et à susciter une adhésion durable. Ce faisant, je n'ignore pas qu'il existe également un usage péjoratif de la notion d'idéologie, et que cet usage est parfois justifié, et souvent qualifié d'idéologique, une vision caractérisée par le dogmatisme et le manque de souci pour les faits. Le problème est que ceux qui se revendiquent du pragmatisme absolu sont souvent les plus idéologiques de tous, au sens péjoratif. Leur posture prétendument post-idéologique dissimule mal leur manque d'intérêt pour les faits, l'ampleur de leur ignorance historique, la lourdeur de leurs présupposés et de leur égoïsme de classe. En l'occurrence, ce livre sera très factuel. Je vais présenter de nombreuses évolutions historiques concernant la structure des inégalités et leur transformation dans différentes sociétés, d'une part car il s'agit de ma spécialité initiale en tant que chercheur, et d'autre part parce que je suis convaincu que l'examen serein des sources disponibles sur ces questions permet de faire progresser notre réflexion collective. Cela permet notamment de mettre en comparaison des sociétés très différentes les unes des autres, et qui souvent refusent de se comparer les unes aux autres, car elles sont convaincues, généralement à tort, de leur exceptionnalisme et du caractère unique et incomparable de leur trajectoire. En même temps, je suis bien placé pour savoir que les sources disponibles ne seront jamais suffisantes pour trancher tous les différends. Jamais l'examen des faits ne permettra de résoudre définitivement la question du régime politique idéal ou du régime de propriété idéal ou du régime éducatif ou fiscal idéal. D'abord parce que les faits sont largement tributaires des dispositifs institutionnels, recensement, enquête, impôts, etc., et des catégories sociales, fiscales ou juridiques forgées par les différentes sociétés pour se décrire, se mesurer et se transformer elles-mêmes. Autrement dit, les faits sont eux-mêmes des constructions et ils ne peuvent être correctement appréhendés que dans le contexte de ces interactions complexes, croisées et intéressées entre l'appareil d'observation et la société étudiée. Cela n'implique évidemment pas qu'on ne puisse rien apprendre d'utile de ces constructions cognitives, mais bien plutôt que toute tentative d'apprentissage doit prendre en compte cette complexité et cette réflexivité. Ensuite, parce que les questions étudiées, la nature de l'organisation sociale, économique et politique idéale, sont beaucoup trop complexes pour qu'une conclusion unique puisse un jour émerger d'un simple examen objectif des faits, qui ne seront jamais que le reflet des expériences limitées issues du passé et des délibérations incomplètes auxquelles nous aurons pu participer. Enfin, car il est tout à fait possible que le régime idéal, quel que soit le sens que l'on choisisse de donner à ce terme, ne soit pas unique et dépende d'un certain nombre de caractéristiques de la société étudiée. Apprentissage collectif et sciences sociales. Pour autant, je n'ai pas l'intention de pratiquer un relativisme idéologique généralisé. Il est trop facile pour le chercheur en sciences sociales de se tenir à égale distance des différentes croyances et de ne pas se prononcer. Ce livre prendra position, en particulier dans la dernière partie, mais je tenterai de le faire en explicitant autant que possible le cheminement suivi et les raisons qui me conduisent à ces positions. Le plus souvent, l'idéologie des sociétés évolue avant tout en fonction de leur propre expérience historique. Par exemple, la Révolution française naît pour partie du sentiment d'injustice et des frustrations suscitées par l'Ancien Régime. Par les ruptures qu'elle entraîne et les transformations qu'elle entreprend, la Révolution contribue à son tour à transformer durablement les perceptions du régime inégalitaire idéal, en fonction des succès et des échecs que les différents groupes sociaux prêtent aux expérimentations révolutionnaires, aussi bien sur le plan de l'organisation politique que sur celui du régime de propriété ou du système social, fiscal ou éducatif. Ces apprentissages conditionnent les ruptures politiques futures, et ainsi de suite. Chaque trajectoire politico-idéologique nationale peut se voir comme un gigantesque processus d'apprentissage collectif et d'expérimentation historique. Ce processus est inévitablement conflictuel, car les différents groupes sociaux et politiques, outre qu'ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts et aspirations, n'ont pas la même mémoire et la même interprétation des événements et du sens à leur donner pour la suite. Mais ces apprentissages comportent également souvent des éléments de consensus national, au moins pour un temps. Ces processus d'apprentissage collectif ont leur part de rationalité, mais ils ont également leurs limites. En particulier, ils ont tendance à avoir la mémoire courte. On oublie souvent les expériences de son propre pays au bout de quelques décennies, ou bien on n'en retient que quelques bribes, rarement choisies au hasard. Et surtout, ils sont le plus souvent étroitement nationalistes. Ne noircissons pas le trait, chaque société tire parfois quelques leçons des expériences des autres pays, par la connaissance qu'elles en ont, et aussi bien sûr au travers des rencontres plus ou moins violentes entre les différentes sociétés. Guerre, colonisation, occupation, traités plus ou moins inégaux, ce qui n'est pas toujours le mode d'apprentissage le plus serein ni le plus prometteur. Mais pour l'essentiel, les différentes visions du régime politique idéal, du régime de propriété souhaitable ou du système légal, fiscal ou éducatif juste, se forgent à partir des expériences nationales en la matière et ignorent presque complètement les expériences des autres pays, surtout lorsqu'ils sont perçus comme éloignés et relevant d'essences civilisationnelles, religieuses ou morales distinctes, ou bien lorsque les rencontres se sont passées de façon violente, ce qui peut renforcer le sentiment d'étrangeté radicale. Plus généralement, ces apprentissages se fondent souvent sur des représentations relativement grossières et imprécises des dispositifs institutionnels réellement expérimentés dans les différentes sociétés, y compris d'ailleurs au niveau national ou entre pays vivant en bon voisinage. Aussi bien dans le domaine politique que sur les questions légales, fiscales et éducatives, ce qui limite considérablement l'utilité des enseignements qu'il est possible d'en tirer pour la suite. Bien évidemment, ces limitations ne sont pas données de toute éternité. Elles évoluent en fonction de multiples processus de diffusion et de mobilisation des connaissances et des expériences. Écoles et livres, migration et intermariage, partis et syndicats, mobilité et rencontres, journaux et médias, et ainsi de suite. C'est ici que les recherches en sciences sociales peuvent jouer leur rôle. En confrontant minutieusement les expériences historiques issues de pays et d'aires culturelles et civilisationnelles différents, en exploitant de façon aussi systématique que possible les sources disponibles, en étudiant l'évolution de la structure des inégalités et des régimes politico-idéologiques dans les différentes sociétés, je suis convaincu qu'il est possible de contribuer à une meilleure compréhension des transformations en cours. Surtout, une telle approche comparative, historique et transnationale, permet de se forger une idée plus précise de ce à quoi pourrait ressembler une meilleure organisation politique, économique et sociale pour les différentes sociétés du monde au XXIe siècle, et surtout pour la société mondiale, qui est la communauté politique humaine à laquelle nous appartenons tous. Pour autant, je ne prétends évidemment pas que les conclusions que je présenterai au fil du livre soient les seules possibles. Elles me semblent être celles qui découlent le plus logiquement des expériences historiques disponibles et des matériaux que je vais présenter. Et je tenterai d'expliciter aussi précisément que possible les épisodes et les comparaisons qui me paraissent les plus décisives pour justifier telle ou telle conclusion, sans chercher à dissimuler l'ampleur des incertitudes qui demeurent. Mais il va de soi que ces conclusions sont tributaires de connaissances et de raisonnements eux-mêmes fort limités. Ce livre n'est qu'une minuscule étape dans un vaste processus d'apprentissage collectif, et je suis infiniment curieux et impatient de connaître les étapes suivantes de cette aventure humaine. Je veux aussi ajouter à l'intention de ceux qui se lamentent de la montée des inégalités et des dérives identitaires, et aussi de ceux qui craignent que je me lamente à mon tour, que ce livre n'est en aucune façon un livre de lamentation. Je suis plutôt d'un naturel optimiste, et mon premier objectif est de contribuer à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Plutôt que de voir toujours le verre à moitié vide, il n'est pas interdit de s'émerveiller face à l'étonnante capacité des sociétés humaines à imaginer des institutions et des coopérations nouvelles, à faire tenir ensemble des millions, parfois des centaines de millions, voire des milliards, de personnes qui ne se sont jamais rencontrées et ne se rencontreront jamais, et qui pourraient s'ignorer ou se détruire, au lieu de se soumettre à des règles pacifiques, alors même que l'on sait si peu de choses sur la nature du régime idéal, et donc des règles auxquelles il est justifié de se soumettre. Pour autant, cette imagination institutionnelle a ses limites et doit faire l'objet d'une analyse raisonnée. Dire que l'inégalité est idéologique et politique, et non pas économique ou technologique, ne signifie pas que l'on puisse faire disparaître l'inégalité comme par enchantement. Cela veut dire, plus modestement, qu'il faut prendre au sérieux la diversité idéologico-institutionnelle des sociétés humaines et se méfier de tous les discours visant à naturaliser les inégalités et à nier l'existence d'alternatives. Cela signifie également qu'il faut étudier de près les dispositifs institutionnels et les détails des règles légales, fiscales ou éducatives mises en place dans les différents pays. Car ce sont ces détails décisifs qui en réalité font que la coopération fonctionne et que l'égalité progresse, ou pas, au-delà de la bonne volonté des uns et des autres, qui doit toujours être présumée, mais qui n'est jamais suffisante, tant qu'elle ne s'incarne pas dans des dispositifs cognitifs et institutionnels solides. Si je parviens à communiquer un peu de cet émerveillement raisonné au lecteur, et à le convaincre que les connaissances historiques et économiques sont trop importantes pour être abandonnées à d'autres, alors mon objectif aura été pleinement atteint.